Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, il est Europe Écologie Les Verts, député bien entendu, c'est Yannick Jadot pour une émission spéciale betterave, Yannick Jadot.
Oui, c'est monsieur, j'en peux plus. Oui, les betteraves sont en train de mourir à cause des Brésiliens, Madame Mabrouk, qui ne respectent pas les normes sociales, les normes environnementales. Ce n'est pas les pucerons qui tuent les betteraves. Oh là, oh là, oh là, oh là, j'ai l'impression d'être Fanny Agostini, mais alors qu'est-ce qu'on fait, Yannick Jadot ? Mais vous savez, Sonia Mabrouk, je n'oublie pas pour autant qu'on est le pays de la bonne bouffe, du miel, des oiseaux et des abeilles. Oui, je vous fais un smoothie, je mélange tout. Hein, des betteraves, des abeilles, du miel, des pucerons, j'ajoute 350 euros par jour pour vivre et un suicide par jour. Oula, oula, c'est dégueulasse les smoothies aux betteraves. Bon, je vais vous coincer, Yannick Jadot aussi, je vais vous coincer avec Alice Coffin. Alice Coffin qui veut éliminer les hommes. Est-ce que vous condamnez les propos d'Alice Coffin? Je vais vous dire une chose, Mabrouk. J'ai défendu Alice Coffin. Oui, je suis essoufflé parce que je suis épuisé de répéter toujours la même chose. À l'époque, Alice Coffin, à l'époque de son combat LGBT, je l'ai défendu. Et je peux vous dire qu'ici, nous a...
Oui, mais est-ce que vous condamnez ces propos ou vous ne les condamnez pas?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec tout ce...
Oui, mais vous condamnez. Il condamne pas.
Non, moi, ce que je veux réconcilier, Madame Mabrouk, c'est les hommes et les femmes. Il y a 30 milliards de relance de la consommation qui doivent être faits par ce gouvernement. Il faut des transports collectifs.
Oui, mais vous ne condamnez pas.
Mais moi, ce que je veux, Madame Mabrouk, c'est réconcilier les hommes et les betteraves.
Oui, bien, on va terminer là-dessus. Ça va faire plaisir à Alice Coffin après son combat LGBT, le combat LGBTrave. À vous, Jenny.
Merci, Sonia. Allez, vous êtes maintenant avec Mathieu Béliard. Son rire historique.
Oui, je rigole toujours. Deux secondes après, pardonnez-moi. Oui, le temps de changer de voix. Alors, écoutez-moi. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr le Covid et Roland Garros. Et Roland Garros, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est partenaire. Je le rappelle parce que c'est la seule année depuis 1925 où on peut pas y aller, donc on est partenaire sans pouvoir y aller. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le Covid, vous le savez, il y a les alertes de différentes couleurs, les alertes rouges, les rouges foncés, les rouges écarlates, les rouges écarlates maximales, et pour les joueurs de tennis français, il y a les défaites de différentes tonalités, les défaites honteuses, les défaites schkumoun, les défaites dignes et les défaites victorieuses avec Hugo Gaston.
Et voilà,
bravo,
merci
à Hugo Gaston.
Petit hommage, merci Mathieu.
Oui, hommage à mon interview, j'ai eu le scoop quand même ce matin, c'est moi qui l'ai eu.
Exclusivité sur la radio officielle de Roland Garros.
Voilà. Exactement.
Aucune mesure restrictive pour Paris n'a été annoncée hier, mais ce sera probablement le cas ce matin à 11h30. Bars et restaurants parisiens devraient subir un nouveau tour de vis. On va en parler avec le Premier ministre Jean Castex, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Gaston Castex, ce matin. Oui, c'est un prénom local. Oui, merci de m'accueillir dans vos locales. Moi qui suis de longue date, vous le savez, un élu local. En tant qu'élu local, je suis bien placé pour connaître l'impatience des maires et des mairesses sur ces nouvelles restrictions. Les annonces seront faites et je peux vous dire que nous avons...
Attendez, c'est quoi cette musique là?
Mesdames et messieurs, au nom de la ville de Marseille, moi, Jean-Claude Gaudin, je suis heureux de vous présenter Jean Castex, le Premier ministre qui va annoncer les restrictions à Paris. On retient son souffle, on lève tous les bras en l'air. Restrictions parisiennes qui vont être annoncées dans 3,
non, mais 2, Monsieur Gaudin, qu'est-ce que vous faites là?
Ah ben, ce que je fais, je peux vous dire qu'à Marseille, ça fait une semaine qu'on les attend, ces annonces de restrictions pour Paris, votre capitale, putain de capitale. Alors croyez-moi qu'on s'est organisé pour que ce soit un peu festif, croyez-nous. Allez, Jeannot, mon Jeannot Castex, balance la semoule. Eh bien, compte tenu des différents indicateurs que nous avons à notre disposition, qui sont un peu notre tableau de bord, nous sommes en train, appuyés par les conseillers départementaux et régionaux, avec les régions qui nous soutiennent, avec les acteurs des différentes filières. Ça traîne. Bon, tu accouches ou pas, Jean? Qu'on les confine, les Parisiens, on les confine pas. Allez, Jeannot, une annonce, Jeannot. Arrête de tortiller du yonf comme une danseuse d'opéra, Jeannot, on y va. Bien, écoutez, avec donc, disais-je, avant d'être interrompu de façon impromptue, et avec les différents acteurs, nous préparons une réponse coordonnée, simultanée et lucide, qui vous sera communiquée ultérieurement dans la...
Oh putain, non, mais notre gueule, non, mais qu'est-ce qu'il fout là, le Jean Lassalle de Matignon? 8 jours qu'on attend, nous, attention. Je le dis, Madame Julie, Monsieur Béliard, vous êtes témoin, Monsieur Mohamed, Madame Agostini, on va finir par monter à Paris et les fermer nous-mêmes, vos bistrots parisiens. Attention, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Alors préparez-vous pour la bagarre. Quand
merci.
On arrive en ville...
Oui, c'est bon, oui, on l'a.
Bon, non, je, oui, j'ai pas merci. La voix au top, je ne suis pas Monsieur Malevoine.
Merci, Monsieur Godin. Allez, un mot de l'état de santé de Donald Trump qui inquiète. Hein. On va faire un point sur son cas avec le docteur Michel Simès.
Oui, effectivement. Bonjour Marina ou Adriana ce matin. Oui, Adriana. Oui, écoutez, ce matin, j'ai envie de vous appeler Adriana pour rendre hommage à votre petit côté, chère Julie, Adriana Carambe.
Oh, c'est ça. Oui.
Effectivement, donc l'état de santé de Donald Trump inquiète le monde entier puisqu'aux dernières nouvelles, le président américain irait bien. L'Amérique entière est donc suspendue aux lèvres des médecins qui annonceront soit que Donald Trump est encore malade, soit plus grave, qu'il est guéri.
Et on a appris que tout son entourage est contaminé. Hein.
Tout à fait, ma chère Adriana. Donald Trump qui a empêché ses collaborateurs de mettre, vous en souvenez, des masques qui obligeaient les employés de la Maison-Blanche à se serrer la main lorsqu'il se saluait, de préférence après être sorti des toilettes sans se les laver, les fameuses mains, et qui forçait également le même Donald Trump, ses conseillers, à lécher les poignées de porte pour prouver que le virus n'existait pas. Eh bien, ce même Donald Trump aurait déclenché un cluster à la Maison Blanche. On est sidérés.
Et les médecins lui ont administré un traitement expérimental avec notamment des stéroïdes.
Voilà, des stéroïdes pour Donald Trump. Alors déjà que Donald Trump, en temps normal, c'est du spectacle, mais là, la version sous stéroïdes, on n'ose pas l'imaginer. Pour ceux qui ont un abri anti-atomique dans leur jardin, c'est le moment de racheter des pâtes et du PQ, tous aux abris.
Ah,
dites
donc, vous êtes optimiste. Allez, pour terminer, on va parler de Paris, qui devrait donc connaître des restrictions aujourd'hui. Pour autant, les professionnels du secteur de la restauration se battent pour garder leurs établissements ouverts en durcissant les mesures d'accueil. Bonjour Anne Hidalgo, vous êtes dans un bar parisien, je crois, hein?
Oui, bonjour, Madame J. Bonjour, bien sûr, à toutes les Parisiennes et les Parisiens. Écoutez, oui, j'ai rencontré des dirigeants de restaurants. Et que les citoyens se rassurent, tout est prévu pour que le protocole sanitaire soit complet. Je suis d'ailleurs, à ce moment même, puisque vous m'appelez, je suis bien sûr déjà dans Paris pour faire mon travail de terrain. Je suis avec Bernard, qui... et tenancier d'un bistrot dans le 15e arrondissement. Bernard, je suis en ligne avec Europe 1. Vous pouvez témoigner, vous pouvez accueillir Bernard, madame
mais,
Julie,
mais bien
monsieur,
sûr, oui, mais bien
pour
sûr.
Pour rassurer vos auditeurs.
Je vous en
Bernard,
prie. Parlez là,
madame. Oui, effectivement. Oui, madame Hidalgo, bien écoutez, oui, on a pris... des mesures strictes, pas plus de 8 personnes par groupe, voilà, on essaye d'organiser. Ils m'entendent là, Europe 1?
Ah bah très bien.
Oui, très bien.
Allez-y, ouais. Bernard.
Oui, on a pris, pardon, je m'adresse, oui, donc 8 pas plus de 8 personnes par groupe, du gel hydroalcoolique. Un serveur fait un test PCR avant l'apéritif, ça c'est notre protocole. Il y a deux autres serveurs qui proposent de vous prendre eux-mêmes la température avec un thermomètre enduit de savon au pH neutre, respectueux de l'intimité de chacun.
Oh non,
c'est le minimum que nos restaurants doivent assurer. Les clients qui éternuent, bien sûr, sont enfermés illico dans la chambre froide, à l'isolement. Franchement, on essaye de tout faire pour éviter la psychose.
Merci Bernard, pour ce témoignage. Vous voyez, c'est louable. Peut-être faisons l'essai, si vous voulez bien, Madame Julie, avec un client.
Oui, allez-y.
Bonjour,
oui.
Monsieur.
Bonjour.
Oui. Je veux bien faire un essai, mais alors vite, parce que je suis juste descendu de mon bureau. Là. Moi, je travaille à la radio, à Europe 1, pour prendre un petit ballon de rouge. Là, je suis descendu. Je prends un thé vert jasmin, comme d'habitude. Je dois remonter dans 3 minutes.
Oui, très bien, monsieur Manny Cabrol, c'est ça. Déshabillez-vous, voilà. Vous vous allongez sur cette table et ouvrez la bouche. Nous allons procéder à l'examen pendant que l'on vous sert votre côte du Rhône, comme d'habitude, c'est ça. Allez, on se dépêche.
Moi, je bois jamais ça. Je veux un thé vert, mais sans sucre, s'il vous plaît. Non, c'est quoi ce coton-tige d'1m50, là? Qu'est-ce que vous mettez dans le nez, là? Non, arrêtez, là, j'ai plus soif. Non, désolé, mais je remonte, là.
Bien, vous le voyez, Madame Julie, non seulement ces mesures permettent de lutter contre le Covid, mais elles permettent aussi d'éviter aux gens de consommer de l'alcool trop tôt le matin.
Vous voyez, on
gagne sur tous les tableaux en termes de santé publique.
Ah ben, bravo.
Bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1. L'info du jour, ce sont les bars qui ont fermé à Paris pour 2 semaines. Alors positivement, c'est pas fermé, nos prévisions météo Europe 1 vont beaucoup gagner en précision. Vous l'avez
c'est
compris.
Pour Laurent, oui, bien sûr.
Arrête. C'est pas sympa.
Avec les bars fermés, dans 2 semaines, on va tous se retrouver au chômage partiel. Et puis avec les bars fermés, on va devoir boire dans la rue. Du coup, on va tous avoir la même vie que des punks à chiens, il faut le dire à nos auditeurs. Et puis on pense à ceux qui vont souffrir le plus de cette fermeture de bar. Les célibataires, les célibataires. Et surtout les comment ne pas dire le mot moche, merde, trop tard, je l'ai dit. Bon, ils vont être obligés de séduire autrement et ne pas tout miser sur l'alcoolémie de leur partenaire. Allez, courage à eux. Et puis l'autre info, c'est aussi le durcissement des mesures sanitaires à Paris et Petite Couronne. On fait un rappel de ces mesures. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Université à 50% de leur capacité. Et surtout, c'est très important, pas plus de 1000 personnes au mètre carré sur la ligne 13 du métro. Et oui, les gestes barrières, ne l'oubliez pas, c'est capital.
Et merci de les rappeler. Merci Mathieu. On a donc appris la fermeture des barrières. La mesure a été annoncée par le préfet de police Didier Lallement. On va accueillir Gérard Depardieu. Bonjour Gérard. Vous n'êtes pas
salut,
surpris.
Salut Juju, Jean-Julie, salut mon Béliard, salut mon Cabrol, salut au doc. Ça va Mohamed? Il m'a fait une prise de sang. Te casse pas à faire l'analyse, Jimmy. N'analyse pas, c'est du Bourgogne, je te dis tout. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les bars ferment. T'as vu sa tête de pain sucée à Didier Lallement, le préfet? Oh, il a une tête à boire du lait fraise. Non, mais bien sûr qu'il se fout de nous fermer les bars, ce pisse-vinaigre. Oh, il a bien pété l'ambiance, le coton-tige.
Gérard, dans Le Point, vous avez déclaré « La France était confinée. Elle était déjà confinée, elle ne le savait pas. »
Je savais pas, on peut plus rien faire dans ce pays. On peut plus conduire bourré.
Oh,
bah
attendez, faut surtout pas conduire bourré, Gérard, allons.
Mais si, mais qu'est-ce que tu racontes à l'antenne? Au contraire, tu fais des rencontres quand tu roules bourré. Quand tu roules bourré en scooter, tu rencontres un camion, tu rencontres un lampadaire, une vitrine. Puis surtout, c'est les flics qui te ramènent. Ça, c'est des échanges, c'est la vie, la vraie.
Gérard Le Point a publié les bonnes feuilles de votre livre. Vous écrivez, nos politiques ressemblent à des animaux. Animateurs télé, ils n'ont plus de ventre.
Mais oui.
Et vous ajoutez, oulala, bon, j'ouvre les guillemets, on ne sait même plus s'ils chient encore.
Ben oui.
C'est éliminatoire de ne pas avoir de ventre, Gérard Depardieu.
Mais bien sûr, Macron, regarde-le, il est trop mince. Retailleau, il est trop mince. Mélenchon, bon, ça se gâte, mais il est trop mince encore. Même Hollande, il a voulu être mince. Il n'y a que mon Gérard Larcher que j'aime.
Ah, lui,
j'aime. Ah oui. De toute façon, les Gérards, c'est que des bons. Hein, Julie?
Je confirme, Gérard, toi.
Bon, on s'en fout de la fermeture des salles de sport avec mon GG Larcher. Puis regarde mon ventre, regarde là, tape dessus. Regarde mon ventre. Meilleure protection contre le Covid. Tu peux pas te rapprocher à moins d'1 mètre de distance. Allez, Davizania, au revoir, je me casse en Russie, ils ont le vaccin et les bars ouverts.
Eh ben, au revoir Gérard. Allez, on va parler de ce dîner secret entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe à l'Élysée. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous ne me demandez pas comment je vais.
Ah, pourquoi vous n'allez pas bien?
Si, justement, je suis en pleine forme. Mais comparez un petit peu, parce qu'à un moment donné, il faut comparer. Hein. Trump, Covid. Bolsonaro, Covid. Boris Johnson, Covid. Justin Trudeau, Covid. Et moi? Rien, que dalle. Vous n'avez pas seulement élu un président génial, vous avez aussi choisi un homme à la santé de fer. Donc je dis bravo aux Français d'avoir misé sur, si je peux me permettre l'expression, le bon cheval.
Toujours aussi modeste. Hein. Donc vous avez dîné avec Édouard Philippe hier. Ça vous a fait quoi?
Écoutez, je peux être honnête avec vous.
Ah bah oui,
ça m'a fait ça.
Ah oui, quand même. On est nostalgique.
Hein. Écoutez, j'ai comparé avec le nouveau. C'est comme revoir une ex qui aurait embelli. C'est toujours douloureux. Quand on revoit une ex qui est devenue chômeuse, qui bouffe des chips et qui a pris 40 kilos, on se dit qu'on a bien fait de se barrer. Mais si elle est devenue mannequin pour Victoria's Secret, on se demande si on n'a pas fait une connerie. Voilà, vous dînez avec Sophie Marceau et vous retournez chez Bobonne Yolande Moreau, c'est dur. Attention, ce sont des métaphores, bien sûr.
Oui, bah limite, hein, quand même, vos métaphores. Alors, vous vous êtes dit quoi avec Édouard Philippe?
Écoutez, je lui ai dit... Édouard, on a un problème. Les gens t'aiment trop. Ils ont la nostalgie de toi. Tu leur manques. Résultat, ils détestent mon castex. Bref, il faut trouver d'urgence une solution, mon Édouard.
Bah, cette solution, c'est quoi? Qu'Édouard Philippe revienne, peut-être?
Non, surtout pas. Non. Mais que les gens détestent plus Édouard Philippe. Donc, je lui demandais s'il pouvait se faire un effort. Je ne sais pas, s'il pouvait se faire gauler dans un monoprix en train de piquer un truc ou je sais pas, se faire filmer dans le bus refusant de donner son siège à une petite vieille. Voire même, la méthode forte, faire une griveau. Qu'il envoie une photo de son sgeg à la Léa Saladé,
oh là là,
par exemple. Je ne sais pas, moi, que dans la maison. Mais... Oui, bref, il faut qu'on trouve une solution. On est dans l'urgence, on est au pied du mur.
Écoutez, bon courage, alors.
Vous en prie.
C'est pas gagné. Léa Salamé. Bon, on va revenir sur les nouvelles mesures de restriction dans la capitale. Bonjour, Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie, je n'ai pas goûté cette dernière blagounette.
Alors on dit dans l'entourage de Jean Castex que le gouvernement doit faire face à la lassitude des Français. Hein. C'est dur la perte de liberté, hein, même si c'est pour d'excellentes raisons.
Mais tout à fait, j'entends que l'interdiction qui est tombée, l'interdiction des fêtes de mariage est douloureuse. Pourquoi nous avons annoncé une bonne nouvelle.
Ah bon?
Vous pouvez assister néanmoins aux cérémonies funéraires. J'ai envie de dire youpi, mais bien sûr dans le respect des gestes barrières. Pas de chenilles, pas de que-le-le. Cela dit, c'est vrai que c'est assez rare un enterrement. Laisse tes pieds en canard.
Oh non.
C'est la chenille. Non, ça ne passe pas au funérarium, ce genre d'attitude.
Ah non, ça passe pas. Merci Anne Hidalgo. Bah tiens, justement, on va parler d'une disparition. Celle du couturier Kenzo Takada, qui nous a quittés à l'âge de 81 ans. Roselyne Bachelot, bonjour, vous êtes ministre de la Culture. Vous teniez à lui rendre hommage.
Mais oui, tout à fait, Kenzo Takada, créateur génial, notamment de cette chanson pour Joe Dassin, Takada, Takada, voilà les Dalton.
Mais enfin non, il n'a jamais fait ça, Kenzo, allons.
Ah bon? écoutez, mais oui, vous souriez en même temps, moi vous voyez, vous avez vu mes fringues bariolées rose et mauve, c'est pas non plus mon truc la mode, vous savez.
On avait remarqué, Roselyne Bachelot, merci. Tous les bars parisiens sont donc fermés à partir d'aujourd'hui.
Non, pardon, mais c'est pas vrai. Hein.
Ah bah tiens, Olivier Fogiel, patron de BFM TV. Comment ça, c'est pas vrai? Vos reporters ont trouvé des bars qui n'ont pas encore fermé?
Non, mais c'est même pas eux. C'est moi tout seul. J'ai pas eu à chercher loin. J'ai juste eu à
appuyé sur le bouton chaîne suivante de ma télécommande et tombé sur l'émission de Pascal Pro. Hein. Je te confirme, tous les bistrots sont pas fermés hein, et tous les poivrons sont pas chez eux. Hein.
Allons, ne soyez pas mesquins, ça vous ressemble pas du tout.
Ce matin, pareil, j'allume Sud Radio, ça émettait encore. Donc, moi, je veux bien que la crise soit prise au sérieux par le gouvernement, mais visiblement, il y en a qui jouent pas le jeu. Hein. J'ai bien fracassé. Hein.
Au revoir Marco, à bientôt. Hein, c'est salut, irrésistible, hein. Surtout votre rire. Allez. C'est la joie à Marseille avec la réouverture des restaurants, même si les bars restent fermés. Jean-Claude Gaudin, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, c'est une formidable nouvelle. Ne nous voilons pas la face. On est juste néanmoins triste de la fermeture des bars. Et ce qu'on aimerait bien fermer en urgence, ce sont les cages de l'Olympique de Marseille. On prend but sur but depuis deux mois, Madame Julevi.
Alors, votre ville a décidé de se doter d'un conseil scientifique. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de conseil scientifique marseillais ?
Non, conseil scientifique marseillais, non, mais c'est de la carabistouille. Ah. C'est du n'importe quoi, c'est ridicule. Pourquoi on aurait besoin d'un conseil scientifique à Marseille alors qu'on a déjà le scientifique ? Je prends à témoin Jimmy Mohamed. À partir du moment où on a Saint-Didier-Raoult, le magnifique, on n'a pas besoin d'un conseil scientifique, je ne sais quoi. À la rigueur, on a besoin de 12 disciples, 12 apôtres, mais c'est
carrément,
tout.
Ouais. Non, mais comme la maire de Marseille, Michèle Rubirola, est médecin, elle peut avoir envie d'échanges avec un conseil scientifique.
Mais d'échanges, non, mais écoutez, Michèle, la maire Michèle, là, rappelez-moi sa spécialité en médecine, et je prends encore une fois témoin, monsieur Gilbert, on rappelle.
Elle est généraliste et homéopathe.
Voilà, un conseil scientifique piloté par une homéopathe. Non, mais franchement, non. Ça va être beau. Il va être composé de qui ? Hein ? De ce conseil scientifique, il va être composé de quoi ? D'un rebouteux, d'une sorcière, d'un type qui boit son urine chaque matin, qui se nourrit uniquement de salsifis bio depuis 1974 ? Hein ? Et le rapporteur de ce conseil scientifique, ce sera qui ? Un de ces voyants qui distribue des prospectus à la sortie du métro ? Hein ? Ce sera Maître Mamadou Diakaté, grand voyant médium de l'université magique de Bamako qui te garantit le retour de l'être aimé, hein, qui t'apporte l'argent, répare les ordinateurs à distance, guérit l'impuissance sexuelle par Facebook et grâce à lui, ton amour courra derrière toi comme un chien fidèle. Non, je suis remonté. Oui, je suis remonté. Non, allons, ce n'est pas sérieux. Mettons tout entre les mains de Saint-Didier Raoult et cessons de douter.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, Europe 1, regarde le monde changer. Vous le savez, c'est notre slogan, mais désormais, regarde le monde masqué. Car oui, autant vous le dire, chers auditeurs, si vous regardez sur Internet, nous portons tous un masque au micro. Et ce matin, j'ai opté pour le masque noir, en cuir. Voilà, on est entre Zorro et Donjon SM. Voilà. Et puis, on a retrouvé Nicolas en live. Nicolas qui nous a appelé tout à l'heure avec le téléphone de Jean Castex.
Et on a entendu.
On avait une liaison made in 1974. Voilà, bref, bon, tout est revenu dans l'ordre. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui auprès des sinistrés des Alpes-Maritimes. Pourvu que ce soit le Emmanuel Macron gentil aujourd'hui et pas le Macron bougez-vous le cul. Sinon, il est capable de conseiller aux habitants de trouver un nouveau travail en nageant jusqu'au bout de la rue, de l'autre côté de la rive. L'autre info, ce sont les mesures, chers auditeurs, les mesures sanitaires qui s'appliquent jusqu'à l'Assemblée nationale, où la jauge de l'hémicycle a été réduite à 50%. 50% de députés présents, c'est peu. Mais ça fait toujours 90% de plus que d'habitude. Et puis, cette belle histoire, nous l'avons dit dans l'édition de 7h, c'est cette dame qui a joué un jeu à gratter, et un jeu à gratter gagnant de 50 000 euros et qu'il a donné à 4 SDF. Finalement, elle aurait bien fait de leur filer juste 2 euros. Enfin, je peux vous dire que les 4 SDF, on a eu un reportage, les 4 SDF ont flambé toute la nuit. Paquet Curly, Monster Munch, Goût Bacon et canette sur canette de 8-6 tiède. Ah, ils ont saccagé leur carton et. Oui, ils restent bretons quand même.
Oh non, allez.
Il ne devrait rien leur rester ce matin, mais ils auront bien profité.
Oui, c'est ça. Merci, on a entendu ça effectivement sur notre antenne. Merci beaucoup, Mathieu. Sonia Mabrouk en a parlé avec Julien de Normandie. Les députés ont voté la réintroduction temporaire de pesticides néonicotinoïdes pour aider la filière de la betterave. Ces pesticides permettent de lutter contre un puceron qui fait des ravages dans les cultures. Problème, ils sont notoirement connu pour tuer les abeilles. C'est plus
oh, oh les salauds ah. Oh les salauds ah. La start-up machine, là, là, tu parles
là, Arnaud Montebourg, bonjour. Bah oui, vous êtes producteur de miel, vous, hein.
Oui. Salut la Julie, c'est le Béliard, le Cabrol, le Jimmy, le Bétou. Non mais vous avez vu ça, les gars. Macron qui se gargarise, H24, de favoriser les entreprises et qui te flingue la filière miel à la première occasion. Non mais, alors qu'on a besoin de miel dans notre pays. Hein. Avec quoi on fait les grogs contre le coronavirus? Le grog, ça va de miel. Hein. Avec quoi on fait des pastilles contre la toux? Avec du miel, ça guérit le miel. Comment vous allez vous soigner cet hiver? Avec des betteraves peut-être, hein. T'as le nez qui coule, t'avales deux betteraves avec un verre d'eau. Mais non. Tu prends ta température avec une betterave. Mais non.
Et ça marche votre production de miel au fait? Hein?
Mais pas qu'un peu. Je suis le number one, wow. Julie. Je suis la star du miel. Je suis le miel Gibson des abeilles.
Et c'est sur vous que ça tombe, tout.
Et
ça, ces mesures.
Hein. Relève-la au moins, celle-ci.
Ah, c'est ça, sur vous que ça tombe, hein, ces restrictions, ces mesures.
Mais écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude, j'ai des ressources, tu vois, Julie, je suis un gars solide. Vous voulez tuer mes abeilles, les députés, mais qu'à cela ne tienne, je lance le miel de betterave. Voilà. Là, mon invention, mais regarde, tiens, voilà, tu vois, je t'ai amené un pot de miel de betterave. Le miel de betterave ravira vos gamins à la sortie de l'école pour le goûter. Grâce à son pesticide qui lui donne un petit goût de bégon amer.
Non, mais c'est bon ça, votre truc, là. Hein?
Oh, t'es sérieuse? C'est dégueulasse, c'est immangeable. Mais bon, puisqu'on veut plus de mon miel, mais je m'adapte.
Bon courage, Arnaud Montebourg. Allez, on va parler d'une première technologique mise en place à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. On peut expérimenter la reconnaissance faciale. Elle permet de fluidifier le parcours du voyageur. On va en parler avec Gérard Collomb. Bonjour. Alors, vous êtes très technologie, vous, je crois, hein?
Oui, bonjour. Je suis très technologie. Je suis, comme disent les jeunes, ultra connected. Pas comme ce ringard de Jean Castex. Non, moi je suis une sorte, comment vous dire, d'Elon Musk. Une sorte de Steve Jobs, mais en plus vivant.
En plus vivant. On peut faire un essai en direct, Gérard Collomb, hein?
Yes, comme disait Jones, avec plaisir. Attendez, je me place devant mon micro.
Allez-y. Bon.
Bonjour, André Bourvil.
Non, là, je suis devant la reconnaissance faciale. Non, je ne suis pas André Bourvil, je suis Gérard Collomb.
On dit dedans, ça marche pas très bien, on dirait, votre truc, là.
Oui, ça bugue, on dirait.
Ça bugue, non,
attendez, je me replace devant la reconnaissance faciale. On refait un essai.
Allez-y.
Bonjour Gollum.
Oh, mais c'est quoi ça? Non, je ne suis pas Gollum, je suis Gérard Collomb. Mais non, franchement, quelle connerie parfois ces technologies à deux balles.
Ah bah écoutez, on va vous laisser. Hein. Merci Gérard Collomb. Notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a été obligée de se placer à l'isolement car elle est considérée comme cas contact. On va prendre de ses nouvelles. Bonjour Roselyne.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
C'est bien de votre part de prendre les précautions pour les autres en vous isolant.
Oh, bah écoutez, la ministre vous dit merci.
Surtout que c'est au-dessus de 65 ans que le Covid est dangereux et que vous en avez bientôt 74.
Oui, alors là, l'ex-sociétaire des grosses têtes vous dit « je t'emmerde ». Toi-même.
En tout cas, on vous souhaite un test négatif, Roselyne.
Oui, négatif, moi aussi. Comme les comptes des directeurs de théâtre. Ah, négatif. Oui,
c'est malin, quelque ça, part, oui, ça... Oui.
Non, mais écoutez, ça leur fait du bien. Finalement, ils vivent comme Molière en son temps, sans une thune.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, hein, Roselyne Bachelot.
Vous savez, quand bien même, vous êtes gentil, mais quand bien même je tomberai malade, je serai toujours plus actif décédé que mon prédécesseur Franck Riester vivant.
Oh là là, stop. Ouh, bon, bah c'est
oui,
bon. Hein.
Oui, oui, oui.
Allez. Non. Merci Roselyne. Christophe Castaner est devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Christophe Castaner.
Je peux vous dire, mon cher Laurent Caprol, que depuis qu'ils ont fermé les bars, je n'ai jamais autant vu ma femme. C'est très bizarre de passer toutes ces soirées avec la même personne.
Monsieur Castaner, on vous entend là. Vous êtes,
vraiment, c'est...
Ah, vous êtes sur l'antenne d'Europe là.
Ça parle. C'est quoi,
vous
c'est
êtes sur Europe, hein, monsieur Castaner.
Ah pardon, oui, bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour également à ma femme qui peut-être m'écoute, bonjour chérie.
Christophe Castaner, vous êtes devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale, alors dites-nous quelle va être votre méthode pour tenir ce parti de plus en plus dispersé.
Bien écoutez, ma méthode est très simple, je le crois, ce sera la même méthode que lors de mon passage au ministère de l'Intérieur.
Donc la fermeté.
Non, le flashball. Voilà. Le premier qui moufte, je lui crève un œil. On va voir s'il ne va pas filer droit ce parti de la République En Marche.
Oui, c'est ça. Bonne chance. On va accueillir maintenant François Hollande, avec qui on va revenir sur ce sondage événement. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron ferait 23% et François Hollande 7%. Bonjour Monsieur le Président.
Française, français. Pardon, la technique, la Marseillaise, s'il vous plaît.
Sinon, ah, carrément, oui.
Française, français, chers compatriotes, Julie, monsieur Béliard, monsieur Mamène, monsieur Bitou, monsieur Rondel, pas encore arrivé.
Mais non.
J'ai décidé d'être candidat, j'avais oublié monsieur Cabrol, j'ai décidé d'être candidat, et je le dis de façon solennelle, à l'élection présidentielle de 2022.
Mais enfin, non, on n'a aucune chance, 7%, c'est nul.
Ben, 7% c'est nul, mais juste avant mon élection 2012, comment on m'appelait, vous en souvenez même Julie?
Non.
On m'appelait monsieur 3%.
Ah oui.
Et là je suis à 7% et j'ai plus que doublé mon score. Et non mais tous les feux sont au vert, ça sent, je vous dis, ça se mêle, ça sent le triomphe.
Ah ben comme vous dites, oui. Et bien dans ce même sondage, dans l'hypothèse non pas d'une candidature de François Hollande pour le PS, mais celle de Ségolène Royal, alors là, c'est pire. Bonjour madame Royal, vous feriez 5% seulement.
Oui. J'ai vu ça. Mais dis donc, on fait un sacré couple de losers, François. Non, écoutez, franchement, je ne comprends pas. J'ai pourtant passé la moitié de mon temps à critiquer Emmanuel Macron, hein, et l'autre moitié à essayer de rentrer dans son gouvernement. J'ai quelque part, vous êtes d'accord, hein, je prends un témoin, Michael Darmon, j'ai ratissé large sur le plan politique. Normalement, tout le monde aurait dû y triver son compte, hein, les pros comme les anti. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'échappe.
Ouais, visiblement, cette stratégie n'a pas été comprise par les Français, en tout cas. Hein.
Oui, non, mais attendez, pardon, c'est quand même pas difficile à comprendre. Le gouvernement est nul, et c'est pour cette raison que j'ai envie de travailler avec eux. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair, cher Mme Leclerc?
Bah vous, tiens. La preuve, vous seriez même derrière Nicolas Dupont-Aignan.
Non mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-ci. Écoutez, il faut remettre l'église au milieu du village. Je viens de signer sur LCI. Je suis une présentatrice télé. Voilà, je ne suis plus une femme politique. Évidemment que je fais un petit score. Faites l'hypothèse d'autres présentatrices. Sophie Davant, je ne sais pas, Tatania Silva de la météo. Ou tiens, même vous, hein, on verrait si vous feriez mieux que 5% en grosse molie.
Christian Jacob, son invité.
Oui, Christian Jacob, patron des Républicains. Christian Jacob, deux policiers blessés, herblés par balle. Hier, votre réaction?
Écoutez, Madame Mabrouk, depuis 3 ans, 3 ans jour pour jour, pile, il y a une multiplication des agressions des policiers, des forces de l'ordre en général. C'est vous, non mais Madame Mabrouk, on est quand même à la deuxième position du classement des pays qui ont des agressions de gens de force de l'ordre. Et je crois qu'on est à la 18e position des personnes emprisonnées. Et oui, non, mais écoutez, mais monsieur, non, mais monsieur Darmanin, non, monsieur Darmanin, non, mais il a mais je suis très à l'aise pour vous en parler. Il est du côté de monsieur Macron, monsieur Darmanin. Non, mais des actes. Non, mais moi, ce que j'entends, c'était surtout des paroles de non, mais François Baroin, François Baroin. Non, mais écoutez, il vous le dira lui-même. Non, mais on a très bien compris que mais c'est un ami de. Si. Non. Oui. Non. Là. Il vous dira, c'est un ami d'Europe 1, de Xavier Bertrand. Mais si, non, il est républicain. Si, quand même, il est républicain. Si, non, mais il n'est pas. Mais comme il est en haut dans les sondages, maintenant, il est républicain. Si, quand même, il est un petit peu républicain. Oui, il y a aussi. Oui, non, mais la présidentielle, c'est pas un sujet. Oui, il y a Bruno Retailleau qui veut. Il y a Valérie Pécresse aussi. Oui, il ne manquerait plus que moi je m'y mette aussi. Ça serait vraiment le pompon à gérer. Mais il n'y a pas. Hein? Ah, c'est fini. Bon, mais je vais écouter. Je pense que les Français pourront juger clairement à travers les propos que quelqu'un a tenus.
Bravo, Julie.
Ah bah oui. Merci, Sonia. Allez, tout de suite, on retourne Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoutez, le monde masqué. L'actualité ce matin, c'est ce score 7-1, victoire de la France. Je ne connais pas coutume hier contre une équipe d'Ukraine totalement décimée par le coronavirus. Réaction tout de suite de Didier Champ en exclusivité sur Europe 1.
Oui, bonjour à tout votre blog, enfin toute votre équipe. Écoutez, oui, 7-1, bon, effectivement, c'est un score fleuve. Moi, à qui on reproche d'habitude que ça joue triste, eh bien voilà, là on s'est fait, je crois, plaisir en écrabouillant une équipe de gars malades. Bon, ben voilà. Bien sûr, on a senti que les Ukrainiens n'étaient pas à leur niveau habituel. La preuve, ils ont quand même pris 2 buts par Olivier Giroud. Bon, voilà.
C'est
quand même la preuve, Mme Julie, qui s'y connaît en football, que le coronavirus fausse un peu les choses. Mais on ne va pas bouder notre plaisir.
Eh bien, merci Didier Deschamps, merci aux sectionnaires d'équipe de France de cette réaction en direct sur Europe 1. Et puis, l'autre info, ce sont les députés qui ont voté la restitution des biens culturels à certains pays africains. C'est bête, il va falloir du coup qu'on leur rende les Magic Systems. Oui, vous l'avez compris, il y avait un petit peu d'ironie dans ma voix. Mais finalement, je vais vous dire une chose, Julie. Je me reprends. J'ai été mauvaise langue parce que ça met quand même la pêche le matin.
Bah oui.
Les Magic Systems, on les garderait bien. On pourrait peut-être faire une garde alternée.
Oui, c'est ça. Oui.
Allez, à vous, Julie.
Merci, Mathieu. Emmanuel Macron était hier dans les Alpes-Maritimes pour parler aux habitants des villages sinistrés par les crues. Éric Ciotti, vous êtes député de ce département. Bonjour.
Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour à Monsieur Cabrol, Monsieur Béthou, Monsieur Vandel et compagnie. Bonjour à Monsieur Béliard en version pirate des Caraïbes. Écoutez, oui, ces crues, non, il n'y a pas de quoi plaisanter. Ces crues sont terribles. Ces crues ont généré des dégâts considérables. Mm-hmm. Il faut le dire, les gens ne sont même pas retrouvés à la rue, comme certains commentateurs le disent, parce qu'il n'y a même plus de rue, Mme Julie. C'est vous dire. Alors, il faut lutter efficacement contre les causes de ce problème, ce fléau. Cela suffit, l'artificialisation des sols. Oui, je suis pas ministre de l'Agriculture, excusez-moi. L'artificialisation des sols, cela suffit. La pollution et le réchauffement climatique, il faut être plus écologiste. Je crois que c'est une urgence. Il faut même remettre en cause le modèle capitaliste et productiviste de la bourgeoisie possédante et fédérer ainsi les masses ouvrières autour de l'idée d'un monde plus vert, comme le voudrait Mme Agostini, plus juste et chaque jour plus concomitant.
C'est pas vraiment un discours qu'on a l'habitude de vous entendre tenir, ça.
Oui, j'entends. Mais avant, et les conséquences de l'ultralibéralisme ne généraient pas, comme on l'a vu, des coulées de boue dans la maison de mon beau-frère. Donc je suis impacté directement. Avant, il générait uniquement des coulées de boue au Bangladesh, dans les maisons de gens qu'on connaît pas. Du coup, ça fait plus réfléchir.
Eh ben, on va réfléchir. Merci Éric Ciotti.
Je vous en prie.
Emmanuel Macron est beaucoup en déplacement. Cette semaine, il a rencontré des soignants qui lui ont demandé plus de moyens. Les sinistrés des Alpes-Maritimes qui ont demandé plus de moyens. Une demande partagée aussi par les universités.
Eh oui. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Oui, j'ai entendu la détresse de toute cette population, de tous ces gens. Et même si c'est vrai que c'est vilain de réclamer, je leur ai promis d'accéder à leur demande. Donc oui, il y aura tournée générale de pognon.
Bon, mais comment vous allez financer tout ça?
Alors, écoutez, là, c'est vrai que j'ai un vrai problème. Faire tourner la planche à billets, c'est efficace, mais on est tous d'accord, c'est vos gosses qui paieront.
Ah, ouais.
Donc du coup, c'est embêtant. Il faudrait donc trouver de l'argent ailleurs. Bien sûr, il y aurait une autre solution, mais éthiquement...
Ah bon, ça serait quoi, cette solution?
Mais ce serait faire une politique de gauche.
Eh ben, allez-y.
Non, rassurez-vous, je ferai tout pour l'éviter. Mais arrivera un moment, un jour, où je n'aurai peut-être pas le choix, Madame Julie.
Mais vous voulez dire quoi? Par exemple, rétablir l'ISF, taxer les milliardaires, les revenus du capital, les grandes entreprises, mieux répartir les richesses.
Non, arrêtez.
Hein?
Arrêtez.
Non,
je vais vomir.
Je vais vomir.
Non, je ne peux pas. Pourvu qu'on y échappe, mais... Vu la tranche de l'année 2020, je commence à prendre peur.
Ah, un petit mot de votre rencontre cette semaine avec des personnels hospitaliers. Vous avez été pris à partie par des soignants très mécontents. Ça ne doit pas être facile. Je précise que c'était à l'hôpital Rothschild.
Oui, à l'hôpital Rothschild. Alors là, je vais vous dire une chose, mauvaise pioche.
Ah.
Je me suis dit, Manu, à l'hôpital Rothschild, tu joues à domicile. Ça va passer crème. Eh ben non, je me suis fait engueuler tout pareil, Madame Julie.
Vous êtes allé au contact du personnel pour un échange cordial, mais sans concession. Hein. Quelle bonne nouvelle vous avez à leur annoncer?
Alors, les bonnes nouvelles, ça tenu en deux axes, deux grands axes, très très clairement. J'ai dit d'abord merci. Premier axe, j'ai dit bon courage pour la suite. Deuxième axe, donc une projection vers le futur, avec de l'espoir. Et bien, je vais vous dire une chose.
Quoi?
Je ne pensais pas, mais ils ont flairé l'arnaque quand même. Ils ont été malins. Et dans ces cas-là, il faut faire comme les braqueurs, vous savez, il faut laisser tourner le moteur de la bagnole. Il faut sauter dedans et partir très, 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 très vite.
Et votre équipe ministérielle, comment va-t-elle?
Ben écoutez, vous me posez cette question, elle va formidablement bien. Hein, Castex se casse la gueule dans les sondages et Olivier Véran est paumé. Je suis en pleine crise sanitaire mondiale et j'ai deux nazes aux deux postes clés. Sinon, par ça, tout va bien, Mme Julie.
Eh bien, bon courage, Monsieur le Président. Allez, depuis la rentrée, notre ami Jean-Jacques Bourdin ne présente plus que l'interview politique sur RMC. Bah tiens, on va le retrouver tout de suite. Son invité, Bruno Le Maire.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC Radio, ministre et Covid. Et oui, chaque matin, les ministres viennent me postillonner le coronavirus à la tronche à un mètre de distance. Et ce matin, c'est Bruno Le Maire. Bonjour, Bruno Le Maire.
Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. S'il vous plaît, n'y allez pas trop fort. Je vous rappelle que je suis un rescapé du Covid.
Oui, t'inquiète pas, je vais te soigner. Alors, Bruno Le Maire, bonjour. Vous avez, je rappelle votre portrait, vous avez 51 ans, vous êtes ministre de l'économie, vous avez été chiracien, et puis villepiniste, sarkozyste, macroniste. Si une planche à voile était élue présidente, vous seriez véliplanchiste.
Merci de ce joli portrait.
Attendez, j'ai pas fini. Votre grande passion dans la vie, ce sont les poésies allemandes, comme quoi, bien avant le Covid, vous n'aviez déjà pas de goût.
Vous avez raison, je crois que c'était important de le préciser.
Alors, Bruno Le Maire, vous venez d'être humilié, on peut dire le mot humilié, oui, par Veolia. On pensait que vous étiez le patron, le premier de la classe, et en fait, vous êtes au piqué avec un bonnet d'âne.
Non, écoutez, alors, cela est faux, et je vais vous dire pourquoi, Jean-Jacques Bourdin.
Non, je m'en fous, parlons de la couverture de Libé. On vous voit vous faire éclabousser avec de l'eau. Et ce titre terrible pour vous, c'est pas l'eau qui prend le maire. Point de suspension.
Oh, c'est pas l'eau qui prend le maire. Ah, d'accord, on l'a.
C'est bien d'expliquer, Julie, aux auditeurs d'Europe 1. Tout, on n'est pas sur W9, Julie. Tout le monde se moque de vous. Car, cher Bruno Le Maire, vous avez interdit à Engie de vendre leur part à Suez et Veolia de vendre leur part de Suez à Veolia, pardonnez-moi, et ils l'ont fait quand même.
Non, écoutez, alors, cela est faux. Et je vais vous dire pourquoi, Jean-Jacques Bourdin.
Non, on s'en fout, je m'en fous. On termine par un peu de musique, Bruno Le Maire, avec votre chanson préférée. Angel. Et oui, c'est Angie. Voilà, à vous, Julie.
Bien.
bienvenue, ma chère Julie, sur Europe 1. Tout d'abord, attendez, Julie, l'actualité ce matin, c'est bien sûr la libération de l'otage Sophie Petronin. Emmanuel Macron libère donc son deuxième otage du quinquennat, puisqu'il avait déjà, on s'en souvient, libéré et récemment Édouard Philippe. Sophie Petronin, qui quitte donc une geôle au Mali, de laquelle elle n'avait pas le droit de sortir, pour un appartement français duquel elle n'aura pas le droit de sortir non plus, à cause, vous l'avez compris, du Covid. En tout cas, ça va lui donner envie de repartir. Mais néanmoins, bienvenue en France, chère Sophie Petronin. Et puis, l'actualité, c'est aussi Mediapro, le diffuseur de la Ligue 1 de football, qui veut rediscuter le contrat de 800 millions d'euros qu'il a passé avec la Ligue professionnelle de football. Un problème économique majeur pour le sport français, analyse notre spécialiste économique Nicolas Barret. Nicolas ?
Oui, Mathieu, effectivement, Mediapro considère que 800 millions d'euros pour Dijon, Lorient ou Angers-Lens, c'est beaucoup. Pourtant, mon analyse est totalement différente et j'ai voulu tester par moi-même. Je me suis fait un petit Metz-Nîmes l'autre jour et je me suis autant éclaté que si j'avais fait le bilan comptable d'une PME pétrochimique de Rhénanie du Nord. Vous savez, la tactique des joueurs était aussi passionnante qu'une analyse du budget, administration et fonctionnement du Parlement européen dans les pages saumon du Figaro. Non, franchement, je ne comprends pas parce que moi, je me suis, à titre personnel, régalé. À vous, Julie.
Merci beaucoup. Après l'agression extrêmement violente de deux policiers à Herblay, Gérald Darmanin a parlé d'un massacre. On attend une justice exemplaire. On va en parler avec... Vous reconnaissez déjà. On va en parler avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Oui. Bonjour, madame. Monsieur Béliard.
Bonjour.
Écoutez, je n'aime pas. Je n'aime pas ce terme de massacre.
Ah bon ?
Oui, parce que les mots ont un sens, madame. Je pense qu'il faut employer des mots justes, des mots qui impriment une réalité. Je parlerai en ce qui me concerne, non pas de massacre, mais d'un sentiment de forte impunité, de forte insécurité, disons-le. Je comprends, au-delà des mots, la détresse psychologique qui les pousse à noircir ce tableau.
Mais arrêté qu'enfin un des policiers est entre la vie et la mort. Ils ont pris plusieurs balles chacun, ils ont été frappés. Enfin...
Mais j'entends bien, madame, votre émotion. J'entends bien aujourd'hui que ces policiers, dans leur lit d'hôpital, croient fermement qu'ils souffrent.
Mais
ils le croient en toute bonne foi, j'en suis certain. Je suis même prêt à leur accorder qu'ils souffrent d'un sentiment de massacre,
Ils souffrent vraiment.
Vous ne savez pas. Vous savez, c'est toujours difficile de dire ce qu'il y a vraiment dans la tête d'une victime. C'est un sentiment,
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Ah, sentiment de mon cul, oui. Non mais madame Julie, n'insistez pas, c'est un nul Dupond-Moretti. Isabelle et moi, quand il nous a défendu à Levallois-Perrin, il s'est vautré. Je peux vous dire qu'on a eu un sacré sentiment, oui, un sentiment de foutage de gueule, oui.
Oui, bon, bah, écoutez, on vous laisse, monsieur Balkany, c'est bon. Parmi les mesures anti-Covid mises en place, le cahier de contact. Quand on va au restaurant, il faut désormais laisser ses coordonnées. Alors comment ça se passe ? Nos équipes se sont rendues dans un restaurant parisien.
Je vous en prie, messieurs, dames, installez-vous. Bienvenue, je vous en prie. Alors, je vais me permettre de demander vos coordonnées pour remplir le cahier de contact avec les mesures sanitaires, vous l'avez compris. Merci. Alors, monsieur...
Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Dupont. Dupont, ça s'écrit, comme ça se prononce.
C'est noté. Voilà. Et vous, mesdames, s'il vous plaît ?
Alors moi, je m'appelle Pamela Boum Boum, comme ça se prononce. Et elle, c'est Lulu. Lulu la Goulue.
Non, pardon, excusez-moi, elle plaisante. Je vous présente mes petites nièces, Marine Dupont et Stéphanie Dupont. Non, c'est gentil, monsieur, non, jeune homme. Non, laissez les chaises, elles vont rester sous mes genoux. Je suis leur vieux tonton gâteau. Voilà.
Oh là là, mon Dieu.
Stéphanie, s'il te plaît, Stéphanie, arrête de jouer avec ta fourchette et range tes nichons et ta table.
Très bien. Par contre, je n'ai pas noté les coordonnées postales de ces dames.
Oui, alors écoutez, elles sont de Lille, en 59 000 Lille, code postal, et vous mettez chez monsieur Lassaumur. Dominique,
il existe encore.
Mettez dodo.
Dodo.
Pardon, jeune homme, s'il vous plaît, jeune homme. Je peux, oui, le cahier de contact. Vous n'avez pas le 06, la petite brune qui est à table au fond à gauche, là-bas. La petite brune.
Oh non, mais c'est bon, allez. Merci beaucoup, Dominique Strauss-Kahn. Le projet de loi contre le séparatisme fait encore quelques remous en cause. Une des mesures phares du projet, l'apprentissage de l'arabe à l'école.
Non, mais là, franchement, excusez-moi, mais ça devient n'importe quoi.
Nadine Morano. Alors, apparemment, vous êtes contre cette mesure, vous.
Mais
hein
oui, mais oui. Mais je vous me posez la question, mais évidemment. On fait tout à l'envers avec cette mesure. On met la charia dans l'hébreu. Franchement.
Oh,
alors oui, oh, mais écoutez,
alors
oui,
là, les auteurs,
une fulgurance, 2h30 du matin.
Ah,
voilà.
Là, c'est
alors,
magnifique.
Mais écoutez, mais c'est pas le propos. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, pour lutter contre l'influence des islamistes, on va quoi? On va prendre l'arabe à nos enfants, c'est ça? Eh bien, je donne pas 6 mois avant que tous les enfants se laissent pousser la barbe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Des CE1, des CE2 barbus. C'est ça qu'on veut.
Mais c'est pas lié du tout. Tout ça, enfin, allons. Nadine Morano.
Mais comment ça? Mais c'est pas lié du tout.
Non.
Mais c'est quoi? Je vous pose la question, puisque vous, c'est vous qui savez. C'est quoi la suite du cursus? Hein, des cours de chimie? Des cours de pilotage d'avion? Mais enfin, c'est quoi l'idée de Macron? Hein, avant la pandémie, ils peuvent plus partir se radicaliser en Syrie, donc on les forme à domicile,
oh,
c'est ça?
Mais vous ne pensez pas que c'est couper l'herbe sous le pied des religieux? Pour vous, c'est inefficace.
Mais écoutez, Madame Julie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein, vous me connaissez? Je suis pas du genre bourrine. Hein, c'est pas le style de la Nadine de rejeter une idée en bloc. Hein, alors, je vais vous dire une chose. Hein, j'ai fait la démarche. J'ai fait le test. J'ai appris quelques mots d'arabe pour pouvoir... Oui, j'ai appris des mots d'arabe pour pouvoir instaurer un dialogue avec des musulmans qui ont leurs enfants à l'école d'à côté. Oui, monsieur Béliard, je suis allé les voir. Et je leur ai dit, droit dans les yeux. Je leur ai dit, façon cordiale. Je leur ai dit, salam alaikum, merci de prendre vos valises et de retourner en Algérie, s'il vous plaît. Amdoulila Nardine Mouk, à vous d'autres familles, Starfoula, allez hop, bled, fissa. Et bien, non seulement ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas voulu obtempérer, mais en plus, je les ai sentis carrément hostiles. Ça prouve bien que ces gens-là, même si tu fais l'effort de parler leur langue, eh ben ils vont te faire des problèmes. Voilà, c'est tout.
Oh là 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 là, merci Nadine Morano, on se calme. À droite, le sénateur républicain Bruno Retailleau estime que François Baroin a bel et bien renoncé à la présidentielle de 2022 et il affirme qu'il est prêt à se lancer à sa place.
Tiens. Vas-y Bruno, alléluia. Porte haut et fier les couleurs de la Vendée.
Philippe de Villiers, on vous a reconnu. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous connaissez bien Bruno Retailleau, il a été vice-président de votre mouvement et il était votre suppléant quand vous étiez député européen. C'est bien ça?
Tout à fait, femelle. Je connais la valeur du bonhomme. C'est le candidat idéal, et croyez-moi, celui qu'il nous faut pour bouter hors de France les féministes, les boucheries halal, les mosquées, la gay pride, les kebabs, les goudous moustachus et Yannick Noah.
Oh, bah tiens.
Taillot et Retailleau.
Oh, ça aussi, c'est.
Bien, hein. 3h10 du matin.
Alors de fait, bon, il est plutôt conservateur. Hein. Il veut réécrire la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Il propose de supprimer les aides sociales aux femmes récidivistes portant le voile intégral. Et il est ultralibéral et contre les hausses du SMIC.
Voilà, exactement, femelle. C'est bien, c'est après le programme. C'est le candidat. Je vous dis, monsieur Béard, monsieur Béthou, monsieur Cabron, monsieur Mamet, c'est le candidat dont on a besoin pour faire enfin franchir un cap à la France et amener notre beau pays droit vers le 11e siècle. Oui, monsieur, c'est facile, monsieur Béliard ricane, mais l'avenir, c'est le passé. Alléluia. Taillot, et Retailleau.
C'est bon, on a compris. Merci, Philippe de Villiers. Et un petit mot de cinéma maintenant pour finir. Jean Dujardin a posté sur Instagram le premier cliché de son nouveau film, intitulé Président au pluriel. C'est un film d'Anne Fontaine qui a pour personnages principaux Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Oui.
Eh ben, dites donc.
Oui, enfin. Je crois que c'était une hérésie, c'était pas encore fait, mais enfin on tourne de mon biopic, comme Charles de Gaulle ou Napoléon. Et vous avez vu, on n'a pas choisi n'importe qui pour incarner mon personnage. En même temps, qui mieux que Jean Dujardin pour sublimer mon charisme?
Non, Jean Dujardin interprète Nicolas Sarkozy. Vous, c'est Grégory Gadebois, mais c'est un bon choix parce qu'il vous ressemble beaucoup, je trouve.
Oui. Ah bah écoutez, super. Hein, si... Non, mais écoutez, si je vais voir mon biopic au cinéma,
Je sais pas, pour voir un homme qui me ressemble. J'ai ça dans la glace tous les matins, je connais. Je n'ai pas besoin d'aller au cinéma. On va au cinéma, soyons réalistes, pour rêver. Et je pose la question, pourquoi ce n'est pas du jardin ou pourquoi pas même, j'aurais supporté, Ryan Gosling.
Mais enfin, il ne vous ressemble pas, enfin, c'est
ah oui, mais alors parce que pourquoi je vais sur votre terrain, pourquoi du jardin, il ressemble à Nicolas Sarkozy, vous trouvez? C'est vrai, mais bien sûr, c'est deux jumeaux, c'est de là. Hein, non, mais je pense qu'Anne Fontaine. Anne Fontaine est de droite, hein, franchement. Et bon, bref, passons sur mon sujet. Et Juju, ma Juju, qui va incarner ma Juju?
Ah, alors ça, je peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que Julie Gayet n'est pas au casting, en tout cas.
Comment ça, elle n'est pas au casting?
Non.
Enfin, tout de même, c'est son métier, les comédiennes.
Bah oui, mais bon...
Elle trouve que... Alors, Anne Fontaine trouve que, pour le rôle de Julie Gayet n'est pas assez bien, c'est ça? Alors, allez-y, dites-moi la vérité, là. Je choisis qui pour l'incarner? Yolande Moreau, Geneviève Bazasco, Mimi Mathy, allez-y.
Non, mais enfin...
Lâchez le morceau.
Non, mais...
Pour mon année.
Là, je ne sais pas qui va l'incarner, mais pour revenir à vous, bah, c'est un très bon acteur, Grégory Gadebois. Il est à la Comédie Française.
Oui, mais enfin, Dujardin, c'est autre chose. C'est quand même l'acteur préféré des Français. Il aurait au moins pu prendre un acteur connu que les Français aiment bien, je sais pas, moi, Omar Sy, pour m'interpréter.
Tiens.
Mais quoi, c'est du cinéma, on n'est pas obligé, monsieur, tout de suite, monsieur Béliard, là, on n'est pas obligé d'être réaliste à 100%, on est là pour vendre du rêve.
Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
Bravo.